L'apprentissage entre pairs, c'est une nouvelle manière de former et d'apprendre. Oui, petit à petit, les entreprises se rendent compte que la formation classique ne suffit plus. La force de la pédagogie, c'est que très vite, les participants sont plongés dedans parce qu'ils y trouvent un intérêt. Ils vont à la fois partager leur expérience et ils vont apprendre forcément de leurs collègues.
Bonjour à tous! Vous écoutez le podcast des intelligences collectives où je vais à la rencontre de celles et ceux qui transforment leur manière de vivre et travailler ensemble. Les intelligences collectives, ce sont des outils et des réflexions à destination de tous ceux qui veulent déployer collectivement un projet. Dans chaque épisode, les invités partagent leurs expériences sur le sujet du faire ensemble pour vous aider à soutenir le développement de vos activités. Je suis Sophie Franz, consultante en stratégie et en conduite du changement. J'utilise chaque jour les méthodes d'intelligence collective pour épauler les organisations dans leur croissance grâce au pouvoir du collectif. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le partager et à lui mettre 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute, cela m'aide beaucoup. Et maintenant, place à la conversation du jour, belle écoute à vous! Je reçois ce jour Marie Solveig Auger, directrice d'opération chez WAP, We Are Peers, première start-up créatrice d'une méthode d'apprentissage entre pairs. Bonjour Marie Solveig.
Bonjour Sophie.
Vous êtes dans le top 30 des entreprises EdTech en France. Vous comptez déjà 12 000 apprenants. Vous travaillez avec la moitié d'entreprises du CAC 40. Alors, je trouve ces chiffres assez impressionnants et je voulais les mettre en avant. Donc déjà, bravo à vous pour tout ça.
Merci beaucoup.
J'ai voulu te recevoir ce jour pour parler de cette modalité d'apprentissage. J'ai mis slash formation. On va en discuter après aussi de l'aspect formation en intelligence collective, qui est donc l'apprentissage entre pairs. Merci d'avoir accepté mon invitation. Dans cette interview, on va tout vous dire sur l'apprentissage entre pairs, ce qu'il apporte, comment le réussir. On va vraiment creuser ça avec toi et votre expertise aussi avec cette méthode que vous avez mis en place au sein de la société WAP. Ce que je te propose, je fais toujours un petit icebreaker sonore, parce que j'aime bien jouer, je trouve ça sympa. Et je sais que dans votre méthode, il y a un point de départ qui est important, c'est la démarche appréciative. J'ai fait un épisode très sympa sur ce sujet, l'épisode 33, que voilà, je vous invite, si vous ne le connaissez pas, à écouter. Il est vraiment chouette. En gros, moi, je résume la méthode appréciative en résumé, de dire qu'on se concentre sur quelque chose qui fonctionne, sur du positif, alors que c'est vrai qu'on a souvent l'habitude de plutôt chercher les problèmes, ce qui ne va pas, plutôt le côté négatif. Et du coup, la démarche appréciative, c'est vraiment de se concentrer sur ce qui fonctionne. Et c'est, si je ne me trompe pas, votre point de départ aussi dans votre méthodologie We Are Peers. Donc, numéro 1, si c'est intéressant pour vous, écoutez l'épisode 33. Et numéro 2, je te propose une petite question appréciative de début de podcast pour faire connaissance. Est-ce que tu es prête?
Oui, avec plaisir.
Ok. J'ai proposé 3 sons. Je te propose, avec ces 3 sons, d'en prendre un et de nous décrire un moment que tu vas peut-être, on le souhaite, retrouver. Un moment joyeux, un moment pétillant, un moment positif où tu t'es sentie contente de toi-même. Est-ce qu'on peut essayer de faire ça?
Ok.
C'est parti. Écoute, je vais te proposer ces 3 sons. Attention. Son numéro 1. Son numéro 2. Et son numéro 3, donc l'idée, c'est un moment voilà, où tu étais bien, où tu t'es sentie bien, quelque chose d'un peu... où tu étais contente de toi. Numéro 3. Alors, c'est peut-être pas facile, mais est-ce que tu as quelque chose qui te revient en tête d'appréciatif de, voilà.
Merci beaucoup pour ces 3 sons, Sophie. Les 3 me parlent. Le premier, cela me fait penser à une berceuse, cela me fait penser au dessin animé Anastasia, que j'aime beaucoup. Le deuxième son, avec les bruits de conversation, les échanges, ça pétille. Mmh. Et le troisième son, nature, bruit d'oiseau. Je dirais quand même le deuxième son, avec, j'imagine, une salle remplie de petits groupes qui est en train d'échanger, qui est en train de partager des expériences. Et je trouve que ça fait une belle transition pour notre podcast à propos de l'apprentissage entre pairs.
On le prend. Super, merci beaucoup pour ce moment voilà, pétillant et positif pour démarrer notre podcast ensemble. Est-ce que tu peux nous parler de toi rapidement, nous présenter qui tu es, pour après directement parler de l'apprentissage entre pairs?
Avec plaisir. Je m'appelle Marie Selvay-Gauger, je suis directrice des opérations chez WAP, qui veut dire « We are peers », nous sommes des pairs. Et plus particulièrement, je conçois des ateliers d'apprentissage entre pairs, j'en facilite et puis je forme à la méthode. Et pour la petite anecdote, j'ai rencontré Diane Laine, la fondatrice de WAP, quand on était à l'EMU ensemble, puisqu'elle a monté sa start-up quand elle était elle-même étudiante. Et elle m'a toujours impressionnée de mener de front à la fois ses études et l'entrepreneuriat. Et donc, c'est quelques années plus tard qu'on s'est retrouvés et que je rejoins son équipe.
D'accord, parce que j'ai donné des chiffres assez intéressants, je trouvais, 12 000 apprenants, moitié d'entreprise du CAC 40, mais l'entreprise est assez jeune, elle date de
2016,
plus si jeune que ça non plus, d'accord, ok. Et d'où, ok, donc elle a été lancée pendant vos études. Est-ce que tu peux nous, bah justement, nous dire, alors, on va commencer d'abord sur l'apprendre entre pairs, et on parlera plus de WAP tout à l'heure si c'est ok pour toi. Est-ce que tu peux, pour les auditeurs qui ne connaissent pas, expliquer ce qu'est l'apprentissage entre pairs?
L'apprentissage entre pairs, c'est une nouvelle manière de former et d'apprendre. Ouais. En fait, on part du principe que 70% de nos apprentissages s'acquièrent par l'expérience. Une majorité de nos savoirs est enfouie dans notre expérience. C'est des savoirs qu'on ne trouve ni dans les livres, ni dans les formations traditionnelles. C'est un savoir très précieux, difficilement accessible, parce qu'il est inconscient. Il est enfoui, parfois par le syndrome de l'imposteur, ou simplement enfoui parce qu'on n'a pas conscience qu'on a déjà ce savoir en nous. Et malheureusement, il y a très peu d'espace pour le transmettre dans les organisations. Et aujourd'hui, on a une méthode qui permet de partager ces savoirs mutuellement, entre pairs. Donc des pairs, c'est quoi? C'est des personnes qui ont les mêmes enjeux. Ils n'ont pas forcément exactement le même background, mais ils ont les mêmes enjeux, les mêmes problématiques. Et donc si l'un partage son expérience, cela va parler à l'autre. C'est ce qu'on appelle la pédagogie. C'est la pédagogie des pairs.
Super. Donc, il y a vraiment deux aspects. C'est l'émergence, que tu dis qu'il y a 70% des savoirs qui sont enfouis, hein, et après, la transmission. Si on parle de la transmission, ça me fait penser à la pyramide des apprentissages d'Edgar Dale, c'est ça? Si je me souviens bien, la pyramide, elle dit que 5% des apprentissages, quand on est vraiment, je dirais, sur le format classique scolaire, en descendant en cours magistral, sont retenus par l'apprenant. Et 90% quand c'est l'apprenant lui-même qui enseigne, qui partage, qui échange. Du coup, vous, l'apprenant entre pairs, on est vraiment cette modalité aussi de transmission, de rétention de l'information. Est-ce que c'est ça aussi que permet l'apprentissage entre pairs?
Exactement, c'est les deux volets. C'est je fais émerger un savoir que j'avais en moi, mais dont je n'avais pas conscience. Ouais. Et en plus, je le transmets à des collègues ou à des pairs qui ont les mêmes problématiques que moi. Et effectivement, la pyramide 70-20-10, c'est qu'il n'y a que 10% de l'apprentissage qu'on retient grâce à la formation classique, la formation continue, okay. 20% grâce aux échanges, aux interactions, et 70% à travers l'action, à travers les défis. C'est en faisant qu'on apprend. Donc finalement, l'apprentissage entre pairs, on est dans le 20%, complètement, on est dans les échanges. Et on est un peu dans les 70%, puisqu'on va partir de l'expérience vécue.
D'accord. Et si on a cet aspect formation-transmission, aujourd'hui en entreprise, moi quand je travaillais dans des grands groupes, on était surtout sur du e-book, du MOOC, etc. Comment est-ce que ça évolue en entreprise justement sur cet aspect transmission, formation? Est-ce que tu vois beaucoup d'évolution sur cette modalité d'apprentissage entre pairs ou comment est-ce que tu vois ça?
Oui, petit à petit, les entreprises se rendent compte que la formation classique ne suffit plus. Elle est très efficace pour apporter l'état de l'art théorique, mais ensuite, il manque une brique. Il manque une brique de la transmission. Par exemple, un collègue qui a déjà mis en place une bonne pratique, autant s'en servir, autant recycler ce qui a été utilisé. Et puis aussi, le fait d'apprendre en faisant. Donc, c'est les deux briques que l'on permet grâce à l'apprentissage entre pairs. Par exemple, la thématique « Comment mieux manager à distance ?» La formation classique va apporter tout le savoir, tout ce qui a été écrit, toutes les théories, toutes les méthodes. C'est super pour démarrer. Et ensuite, il faut une autre brique. Et par exemple, avec WAP, on va identifier les meilleures méthodes de chaque personne. Et c'est des méthodes qui ont été testées, validées en opérationnel sur le terrain. Et donc, ça donne envie ensuite de passer à l'action.
OK. Quand tu dis identifier, est-ce qu'on est déjà... Alors, c'est la question que je me pose. Donc, comment manager à distance ? On a des méthodes, OK ? On est plutôt sur du hard skill qu'on peut transmettre, voilà, soit en descendant, soit avec des e-books, etc. Quand tu dis identifier, est-ce qu'on passe sur autre chose, plutôt sur quelque chose de plus soft, notamment de plus enfoui, comme tu disais ? Est-ce qu'on est dans cette phase d'émergence qui est, pour moi, voilà, cruciale et manquante souvent dans les organisations où, comme tu dis, on va transmettre, je ne sais pas, un livre ou un bouquin avec les 10 méthodes et il manque quelque chose. Est-ce que c'est ça que tu dis quand tu dis identifier ?
Alors, identifier, ça fonctionne avec les hard skills et avec les soft skills, les deux. On va simplement identifier ce que des pairs ont déjà fait et qui a fonctionné. C'est la démarche appréciative dont tu parlais, qui est née il y a à peu près 40 ans à l'Université de Cleveland. La démarche appréciative va permettre à un groupe d'identifier ce que son collègue a bien fait. Il n'en avait pas forcément conscience, mais en fait, il avait déjà mis en place des bonnes pratiques. Donc, autant s'en servir. Et cela fonctionne pour les soft skills, mais aussi pour les hard skills. Par exemple, on travaille avec US Consulting, qui a pour enjeu de diffuser l'expertise interne, c'est-à-dire l'expertise qui est déjà dans les têtes des collaborateurs. Et c'est des ressources qui sont spécifiquement applicables à l'entreprise. C'est ça aussi qui est intéressant. Donc, au métier très opérationnel de l'entreprise, en l'occurrence, les travaux d'hydraulique. Donc, c'est vraiment expert, c'est des sujets opérationnels. Et là, on a rassemblé un club métier interrégional pour échanger sur les bonnes pratiques de toutes les agences. Ce qui fait que maintenant, les niveaux sont harmonisés et ils bénéficient de ce qui est bien fait chez le voisin.
OK, intéressant. Identifier, est-ce qu'on le fait au moment justement du groupe, c'est-à-dire ensemble, ou est-ce qu'en amont, on demande à la personne de réfléchir déjà à ce qu'elle sait sur le sujet ? Comment vous gérez ça ?
Les deux. Il y a une partie asynchrone où on envoie ce qu'on appelle la question d'émergence. Donc, c'est la question qui va permettre à chacun de penser à une expérience réussie qu'il a envie de partager.
Et donc là, on est pile poil dans la démarche appréciative.
C'est ça. Exactement. On va vraiment chercher une expérience où la personne s'est sentie fière, la personne s'est sentie valorisée. Elle va avoir envie de partager cette expérience. Et on envoie cette question en amont, à la fois pour que le participant ait le temps de réfléchir à la meilleure expérience qu'il a envie de partager, mais aussi pour l'engager, pour qu'il connaisse déjà la thématique en amont, qu'il sache de quoi on va parler, qu'il sache aussi qu'on va utiliser une méthode différente d'une formation classique pour qu'il puisse se projeter et se mettre dans les bonnes conditions. Et ensuite, le jour J, là, on est en synchrone, tout le groupe est présent et l'identification des connaissances tacites va se faire par le groupe et par la personne qui est en train de raconter son expérience grâce à des questions appréciatives.
Vraiment intéressant. Et je pense que c'est vrai, c'est là aussi, c'est pour ça que je voulais vous interviewer, cette partie appréciative que vous avez, qui pour vous est clé, et comme je disais, cruciale. Je pense que c'est un super conseil à donner aussi à ceux qui nous écoutent. Des fois, on se dit, je vais laisser les gens parler entre eux. Mais en effet, la préparation est importante. Et aussi, je dirais, la posture. On arrive à quelque chose d'un peu de positif pour avoir envie aussi d'échanger et aussi se faire confiance en disant, waouh, j'ai réussi ça. Et je trouve que c'est là aussi qu'on arrive à cette formation entre pairs et cet apprentissage entre pairs. Et je trouve que c'est chouette que vous ayez vraiment intégré cette démarche appréciative dans cette modalité d'apprentissage entre pairs. Enfin, vraiment, ça, je trouve ça super intéressant. Donc, c'est chouette de nous partager ça. Comment est-ce que, tu viens de dire, donc, ils arrivent et après, on va encore les questionner pour aller plus loin que cette question. Comment ça se passe ? Est-ce que ça, c'est l'outil qui le fait ? Là, peut-être que c'est la plateforme. Est-ce qu'il y a un facilitateur ? Est-ce que c'est entre les pairs eux-mêmes qui gèrent ça ? Comment est-ce qu'on arrive à aller plus loin que cette première question appréciative ?
Tu parlais tout à l'heure de préparation. La préparation est clé et c'est le rôle du facilitateur. D'ailleurs, on l'appelle même le facilitateur concepteur parce qu'il va y avoir un travail en amont d'ingénierie pédagogique, de conception.
Donc, et là, c'est le facilitateur. Un facilitateur dans vos cercles d'apprentissage entre pairs.
Tout à fait. Il y a toujours un facilitateur qui peut être d'ailleurs membre du groupe de pairs. Il peut lui-même être un pair et animer pour ses collègues. Et alors, pourquoi préparation ? Parce que en amont, c'est le facilitateur concepteur qui va écrire le fil rouge pédagogique de l'atelier pour que son objectif, l'objectif de son organisation et l'objectif de ses participants soient alignés. Et il va donc rédiger la question d'émergence. Il va même la tester avec des premiers participants pour vérifier que son public cible comprend la question et que les expériences qu'il va récolter correspondent à son objectif. Et puis, il va mobiliser aussi. Justement, il va envoyer cette première question d'émergence en amont. Il va donner le contexte, expliquer la thématique. Et le jour J, le facilitateur ne va pas être le formateur expert qui est sur son estrade et qui fait défiler ses slides. Pas du tout. Il est au contraire dans une posture assez basse de facilitation. Donc, au départ, en introduction, il va donner le sens, il va expliquer les grandes phases de l'atelier, expliquer pourquoi il a choisi d'utiliser l'apprentissage entre pairs et pas une autre méthode pédagogique. Et ensuite, il va créer des sous-groupes en fonction de différents critères. Par exemple, si l'objectif, c'est, comme à Suez, de mélanger les régions, grâce à la plateforme, il va pouvoir mélanger les collaborateurs pour que les régions se parlent. Okay. Et une fois que les participants sont en sous-groupe, là, c'est les participants qui sont guidés par la méthode qui est affichée sur la plateforme. Et c'est les participants qui vont, à tour de rôle, raconter leur expérience qu'ils ont vécue et se questionner pour aller chercher justement la pépite qui est cachée derrière l'expérience. Et le facilitateur n'a qu'à passer entre les groupes pour vérifier si tout le monde a eu le temps de parler, pour vérifier s'il n'y a pas des questions. Mais c'est vraiment les participants là qui sont complètement acteurs, qui prennent la parole, qui prennent des notes pour qu'il y ait un livrable à la fin utile pour tous.
Ok, super. Est-ce que, alors, j'entends bien que c'est aussi grâce à l'outil, grâce à We Are Peers, que vous arrivez justement à gérer cette apprentissage entre pairs. Deux questions me viennent. Vous posez la première, ce qui paraît plus logique. Est-ce que tu peux nous parler des grandes phases ? Tu dis qu'il y a des grandes phases qui sont dans votre outil. Est-ce que tu peux quand même nous donner un petit peu, nous dire en gros ce que c'est ces phases ?
Oui, bien sûr. C'est des phases de la méthode. Et l'outil est venu ensuite pour appuyer la méthode et faciliter le travail de l'animateur et rendre encore plus responsables les participants. Donc, c'est vraiment la méthode qui nous a permis de définir des grandes phases. La première phase est celle de l'émergence. Donc, c'est grâce à cette fameuse question d'émergence que chacun va pouvoir raconter, choisir une expérience qu'il a envie de partager. Okay. Ensuite, on a l'étape de partage où là, on rassemble les participants en sous-groupes, des groupes de 4-5. Okay. Et chacun, à tour de rôle, ils vont raconter l'expérience qu'ils ont vécue et le reste du groupe va avoir l'occasion de poser des questions pour creuser. Et puis ensuite...
Ça, c'est assez organique. Donc, le facilitateur n'est plus là.
Voilà.
Donc, c'est assez organique. Comment est-ce que tu peux cadrer ça ? Parce qu'on sait qu'en intelligence collective, c'est important quand même d'avoir un cadre, notamment pour pas qu'une personne prenne la parole plus qu'une autre, ce genre de choses. Comment est-ce que vous cadrez ça, vous ?
Par deux moyens. D'abord, le facilitateur en introduction qui va expliquer comment ça va se passer. Donc, il va dire qu'il y a 50 minutes pour la première étape de partage, qu'il y a X minutes par participant, qu'il y a un guide d'interview qui est là pour leur donner des idées de questions à poser. Mais bien sûr, s'ils ont d'autres questions qui leur traversent l'esprit, ils peuvent les poser.
Donc, c'est un guide d'interview, c'est intéressant quand même. Et ça, c'est le facilitateur concepteur qui l'a un petit peu réfléchi. Okay.
Exactement.
Qui peut être modulable, c'est intéressant. Ouais.
Oui,
en
fait, on a un template d'atelier qui fonctionne à tous les coups et qui est personnalisable. Donc, on propose déjà des questions appréciatives qui peuvent fonctionner sur n'importe quelle thématique. Et ensuite... le facilitateur concepteur peut personnaliser les questions.
D'accord.
Donc, le premier moyen pour guider, c'est le facilitateur, surtout en introduction, qui va expliquer chaque activité. Et puis, le deuxième moyen, c'est la plateforme sur laquelle on a mis, par exemple, un chronomètre qui permet au groupe d'être responsabilisé puisqu'il voit le temps s'écouler et il sait combien chaque personne a de temps de parole. Et puis, il y a aussi des sous-rôles que l'on attribue dans le groupe, plutôt c'est le groupe qui s'attribue ses rôles, un rôle de scribe pour prendre des notes. Les notes, elles sont faites pour le groupe. S'il y a des coquilles, s'il y a des fautes de frappe, c'est pas grave. L'objectif, c'est de retranscrire le mieux possible l'expérience qui est en train d'être partagée pour ensuite récupérer les bonnes pratiques et les utiliser. Donc, rôle de scribe, rôle de facilitateur dans le groupe. Donc là, cette personne va veiller... Exactement, cette personne va veiller à ce que chacun ait eu le temps de poser ses questions, à rebondir.
D'accord.
Et puis, un rôle de gardien du temps. Justement, là, cette personne a l'œil sur le timing pour vérifier que tout le monde a eu l'opportunité de raconter son expérience.
D'accord, c'est vraiment intéressant. Je dirais que c'est un peu les règles, mais en tout cas, voilà, les bases quand même de justement comment animer un groupe à une chance collective. Et ça, vous l'avez aujourd'hui, vos utilisateurs, vous leur transmettez ces bases, on va dire, grâce à l'outil We Are Peers.
C'est ça, d'abord à l'oral. C'est vraiment important. Le facilitateur va prendre simplement 10 minutes au départ pour donner le cadre. Ouais. Et ensuite, il va expliquer chaque activité avant de les lancer. Okay. Et puis ensuite, la plateforme rappelle ce cadre.
Oh, je suis d'accord. OK. Ça veut dire que vous êtes on peut faire là en distanciel, on imagine. Hein, ça, c'est OK. En présentiel, vous le faites aussi et il y a quelqu'un qui est devant le PC, etc. Ou comment...
Tout à fait. Les deux formats sont efficaces. D'ailleurs, on est plutôt né en physique au départ. Okay. À l'époque, on n'avait pas encore de plateforme. On avait un jeu de cartes. Pour d'accord. expliquer justement les différentes étapes.
D'accord,
ok. Et donc, en présentiel, on va avoir un facilitateur pour un certain nombre de participants. En général, tous les participants sont dans une même salle, dans une grande salle, avec des cercles de chaises, et il y a un ordinateur par groupe pour prendre des notes. Et en général, l'ordinateur tourne pour que ce ne soit pas la même personne qui joue le rôle de scribe tout du long.
Tout du long ? En distanciel. Tout du long, c'est des séquences de 50 minutes, c'est ça que tu disais vous avez une...
La première activité dure en général 50 minutes, d'accord. Et puis ensuite, les activités suivantes sont plus courtes. Le format classique d'un atelier d'apprentissage entre pairs, c'est 2 heures, donc c'est vraiment un format très efficace.
Ok. Ma deuxième question, que vous avez en tête tout à l'heure, facilitateur, c'est vous qui les formez, comment ça se passe comment est-ce que vous gérez cet aspect-là? Est-ce que c'est des gens chez vous, des salariés, des... voilà.
Les deux, nous, on anime des ateliers d'apprentissage entre pairs et on forme des facilitateurs à la méthode et à l'outil We Are Peers.
Ok, et du coup, soit vous les formez, est-ce qu'après la personne peut aussi former en interne des personnes? Est-ce qu'il y a cet aspect diffusion qui est possible dans les entreprises que vous accompagnez, c'est ça?
Oui, tout à fait, la personne qu'on forme et le référent dans l'entreprise.
D'accord.
Et ensuite, elle a la possibilité d'expliquer à ses collègues comment utiliser la méthode ou l'outil. Par exemple, c'est ce qu'on a fait à Thales récemment. On a formé un premier noyau de facilitateurs qui maintenant ont la possibilité de former leurs propres collègues.
Ok. Si un dirigeant... Alors moi, tu vois, je suis... j'aime beaucoup TPE, PME. J'ai envie aussi que ces personnes aient les clés de l'intelligence collective, d'où aussi le podcast. J'entends que c'est beaucoup de grands groupes, vos clients. J'imagine que vous avez aussi peut-être des plus petits clients. Si une personne dirigeant de TPE, PME souhaitait se dire « Ah ben, ce serait vraiment intéressant d'utiliser cette méthodologie d'apprentissage, de formation », qu'est-ce que tu lui conseillerais? Peut-être tu... Est-ce que c'est vous appeler ou est-ce qu'il y a autre chose à lui conseiller?
Oui, je lui conseillerais d'abord de définir son enjeu du moment. Est-ce que son enjeu, c'est de faciliter la transmission? Est-ce que c'est de valoriser les temps de partage? Est-ce que c'est de fidéliser ses collaborateurs? Donc d'abord définir l'enjeu du moment et ensuite co-construire avec ses équipes un programme d'intelligence collective. Pourquoi co-construire? Parce que ça permet d'engager les collaborateurs. Ils vont se sentir écoutés, ils vont pouvoir faire remonter leurs besoins. Et ensuite, on est sûr que le programme va coller aux besoins des collaborateurs.
Alors, je trouve que c'est difficile quand tu n'es pas habitué à utiliser ces méthodes d'intelligence collective, tu vois, de savoir à quel moment cet apprentissage entre pairs peut être intéressant. J'imagine, je parle marque employeur, enfin, un dirigeant a beaucoup de problématiques. Et je me demande comment est-ce qu'on peut l'aider ça pourrait être le bon moment. Et je repense à une interview que j'ai entendue, je sais plus si c'est toi ou Diane, où vous parlez, par exemple, des soft skills d'un de vos clients banque. Est-ce que tu peux nous parler de cet exemple-là? Est-ce que tu vois de quoi je parle?
Oui, on a plusieurs clients dans la banque, mais il y a un exemple qui me vient en tête qui est le Crédit Agricole Centre France, qui a un enjeu d'excellence relationnelle, de toujours améliorer la relation avec ses clients. Et le besoin est venu des équipes elles-mêmes, donc c'est ça qui est intéressant.
Donc elle disait quoi les équipes d'après toi? Juste, je me mets à la place de mon dirigeant qui ne voit pas trop encore à quoi ça peut lui servir. Elle lui disait quoi, les équipes, à ce dirigeant, tu penses ?
Les équipes disaient, alors la stratégie, c'est l'excellence relationnelle, mais finalement, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on met derrière ? C'est quoi l'ADN du Crédit Agricole par rapport à cette relation avec le client ?
Okay.
Qu'est-ce qu'on met derrière pour ensuite être capable de le mettre en place ?
Super.
Et pour ça, l'intelligence collective, ça permet justement d'échanger, de se dire, OK, nous, c'est ça l'excellence relationnelle que l'on veut mettre. Et ensuite, on partage nos bonnes pratiques parce qu'on a tous vécu des bonnes expériences avec des clients.
Génial, super. J'avais entendu dans une interview donc aussi l'exemple d'un de vos clients qui avait des meilleurs résultats sur une agence que sur une autre agence en termes commerciaux. Et que justement, il a utilisé la pratique jazz entre pairs pour faire émerger en fait plutôt des soft skills. Le commercial, il pouvait pas expliquer à ses collaborateurs pourquoi il y arrivait mieux que les autres. Mais justement, en travaillant entre pairs, ils ont pu détecter que peut-être qu'ils faisaient quelque chose de différent sans le savoir, comme tu le dis, cette identification, cette émergence, et que les collaborateurs ou les collègues se sont dit « Ah bah tiens, c'est intéressant, peut-être qu'on peut essayer aussi de faire ça ». Et ça, je trouve ça vraiment super, j'ai adoré cet exemple-là, en se disant « Bah oui, en effet, il y a des choses des fois qu'on veut transmettre, mais on ne sait même pas, comme tu disais au départ, hein, qu'on les a ou qu'on le fait ». C'est vraiment de l'intuition peut-être même des fois. Et je trouve que votre outil est aussi super intéressant pour ça, ou l'outil global d'apprentissage entre pairs.
Tout à fait, c'est comme si on demandait à quelqu'un qui avait travaillé 20 ans dans la même entreprise, explique-moi toute ta connaissance.
C'est ça.
Ce serait très difficile pour la personne, ça pourrait même être assez violent comme exercice de devoir remplir un PowerPoint de 40 pages, on ne sait pas par où démarrer. Alors que si on propose un atelier d'apprentissage entre pairs, là on est dans un cadre bienveillant, avec des personnes qui me ressemblent, qui ne vont pas me juger. Au contraire, elles vont vouloir m'aider à mettre des mots sur ce que j'ai réussi à faire. Et elles vont être avides de ce que je sais faire. Et elles vont avoir ensuite envie de le mettre en place.
Et par rapport au co-développement, je sais un bel épisode avec Claude Champagne sur le co-développement. Là, l'enjeu, il est collectif, c'est ça ? Alors que le co-développement, c'est on va aider une personne en intelligence collective, mais c'est une personne qui a une problématique, qui la soumet à un groupe, et c'est cette personne qu'on va aider. Alors que là, on est plutôt sur un enjeu collectif, et on va tous essayer de trouver comment avancer par rapport à cet enjeu. Est-ce que c'est juste ?
Oui, il y a des éléments que l'on partage avec le co-développement.
Tout à fait.
Par exemple, le fait qu'on rassemble des personnes qui ont un enjeu commun. En revanche, là où on diffère, c'est que sur le co-développement, c'est quelqu'un qui est le client et qui a des collègues qui jouent le rôle de consultant. Et donc, c'est ce client qui va repartir avec des solutions à sa problématique. Alors que dans l'apprentissage entre pairs, non seulement chacun apprend et transmet, mais en plus, on n'est pas sur du futur souhaitable. On est plutôt sur, on capitalise sur ce qu'on a déjà bien fait pour continuer à le faire ou à mieux le faire. Donc, on ne va pas être sur comment je peux faire pour avoir plus de clients, mais on va être plutôt sur comment dans le passé on a fait pour avoir plus de clients. Et bien maintenant, continuons, poussons le curseur encore plus loin pour aller dans cette voie.
Est-ce que ça, c'est l'apprentissage entre pairs ou est-ce que c'est plutôt l'apprentissage entre pairs par WAP avec cette idée de appréciatif ?
C'est vrai que on a récupéré des ingrédients de différentes méthodes pédagogiques pour constituer la méthode We Are Peers. C'est pour ça qu'on a des ingrédients de l'intelligence collective, on a récupéré la démarche appréciative, on a mis en place une plateforme pour responsabiliser les participants. Donc tout ça, c'est des ingrédients, c'est vrai, à la sauce WAP.
C'est génial, super intéressant. Si je reste dans le pratico-pratique pour la personne qui se dit en interne, c'est vrai que ce serait chouette de pouvoir faire émerger ce qu'on disait avant, des savoirs qui sont un peu cachés, ça c'est le point numéro un, et de les transmettre entre collaborateurs, entre équipes. On a compris qu'il y a différentes étapes à suivre, on a compris aussi l'importance de la facilitation, du facilitateur, avec des clés à connaître et à utiliser. Une des questions que je me pose, c'est aussi la partie capitalisation. Donc, on a bien un scribe chez vous grâce à WAP. Je me dis, même si le PC passe entre, tout le monde écrit quelque chose, comment est-ce que ça se met en musique ? Comment est-ce qu'après, on arrive à avoir quelque chose qu'on peut réutiliser ? Est-ce que vous avez aussi des tips, des conseils, des solutions sur cette partie-là ?
La matière est réutilisable d'abord parce qu'elle est tirée d'expériences vécues, qui ont déjà été testées, qui ont été validées. Donc, tout ce qui est écrit finalement par les participants, on peut le réutiliser. Après, il y a la mise en page
Ouais.
Pour donner envie de lire, de réutiliser, de remettre le nez dedans.
Ouais.
Et pour ça, c'est la plateforme qui nous aide,
okay.
Puisque jour après jour, on améliore encore la façon de synthétiser les prises de notes pour donner envie de relire ce qui a été écrit.
Oui, c'est ça. D'accord. Et du coup, c'est un axe chez vous de développement, toujours d'amélioration aussi. Vous avez aujourd'hui une version, un algorithme, un programme qui permet de faire quelque chose, mais qui est en cours de développement également, c'est ça ?
C'est vraiment c'est en perpétuelle amélioration parce que c'est un axe important. Aujourd'hui, on a une mind map, donc on a un résumé graphique de toutes les expériences et de toutes les bonnes pratiques qui ont été partagées.
Est-ce que c'est l'algorithme qui déjà l'a construit ? On a un peu d'AI derrière l'intelligence artificielle, ou est-ce que c'est le script qui va faire la mind map si on reste
Alors, c'est plutôt l'algorithme aidé du facilitateur.
Super.
Parce que le facilitateur a accès à toutes les expériences et va pouvoir mettre en lumière ce qui est réellement important dans l'expérience.
Ouais, donc
c'est... aujourd'hui, on a une mind map et on a aussi une synthèse en 5 photos qui récupère le thème, un focus sur une expérience avec derrière les commentaires et puis les bonnes pratiques qui ont été synthétisées par les participants.
Top. On est sur de l'apprentissage entre pairs. Est-ce qu'il y a un nombre de personnes qui doit être minimum, maximum, d'après toi ?
Alors, il y a un minimum de 8 participants pour la raison que l'on doit créer au minimum 2 groupes. Des groupes de 4. Donc, on a un minimum de 8 participants. En revanche, on n'a pas de maximum. On a déjà fait des ateliers pour 1200 personnes, 2400 personnes. Il n'y a pas de maximum.
Et pourquoi des groupes de 4
Parce que c'est le groupe de 4-5, c'est le bon chiffre pour à la fois être dans un cadre bienveillant, ne pas avoir l'impression de raconter son expérience devant un amphithéâtre, et en même temps avoir la possibilité d'écouter le plus d'expériences possible.
Intéressant. Super. L'autre question que je me pose, c'est la durée. J'imagine, comme le co-développement notamment, ou comme d'autres process d'intelligence collective, qu'on peut au début un peu... Ce n'est pas une habitude qu'on a peut-être de partager, de chercher, de creuser. Donc, la première séance peut se passer bien, mais peut-être moins bien que les prochaines. Parce qu'il y a aussi un apprentissage justement de cette compétence de partage. Qu'est-ce que vous recommandez ou comment ça se passe finalement avec vos clients en termes de durée ? Est-ce qu'il y a plusieurs cercles obligatoires ou est-ce qu'après c'est « j'ai passé un super moment, je vais le refaire » ?
Cela dépend des besoins. En général, effectivement, il y a un programme de plusieurs sessions d'apprentissage entre pairs, mais cela arrive qu'un client ait pour l'instant la possibilité d'organiser qu'un seul atelier.
Okay.
La force de la pédagogie, c'est que très vite, les participants sont plongés dedans parce qu'ils y trouvent un intérêt. Ils vont à la fois partager leur expérience et ils vont apprendre forcément de leurs collègues. Donc très vite, ils sont en écoute active, ils sont complètement concentrés, ils sont vraiment dedans. Ensuite, l'autre chose que l'on fait, c'est qu'on mobilise en amont, justement avec cette question d'émergence que l'on envoie plusieurs semaines avant, cela leur permet de se préparer et de se mettre dans les conditions d'un atelier qui va être différent. Ils ne vont pas être passifs, ils vont être acteurs.
Ok. En termes de... une des difficultés quand on est en formation, c'est la... Alors, la rétention d'informations, ça, on a bien entendu que la méthode d'apprentissage entre pairs permet de mieux retenir, mais aussi d'aller jusqu'au bout d'un cycle ou de terminer quelque chose. Est-ce que les participants, justement, reviennent, ce que tu dis, vous, en termes de chiffres, vous voyez quoi ? Est-ce qu'il y a 50% qui reviennent, 100% à peu près, je ne sais pas, en ordre de grandeur, participer à ces ateliers ?
Lorsque l'atelier d'apprentissage entre pairs est utilisé dans une communauté apprenante, la plupart des participants reviennent. C'est le cas, par exemple, à Suez Consulting, où il y a eu plusieurs sessions et plus de la moitié des participants sont revenus aux sessions d'après.
C'est quoi la fréquence, à peu près, là ?
Là, on était sur une par trimestre.
Une par trimestre.
Avec des sujets qui ont été demandés par les participants eux-mêmes, puisque à la fin de chaque atelier, on leur demandait sur quel futur sujet souhaitez-vous échanger. Donc, on était sûr que le sujet allait les intéresser et allait leur donner envie de revenir.
Super. Fréquence, une par trimestre, c'est intéressant aussi. J'ai une dernière question. Quand est-ce qu'il ne faut pas le faire pour toi ? Quand est-ce que cette méthode d'apprentissage n'est pas la bonne ?
Quand est-ce qu'il ne faut pas le faire ? Quand on n'est pas entre pairs. quand les participants ont un lien hiérarchique ou ne partagent pas le même sujet, où certains sont beaucoup plus avancés que les autres. Et donc, eux, les experts, vont avoir moins à apprendre que les autres. Donc, dans ces cas-là, il ne faut pas le faire. Et il faut aussi le faire quand tout est aligné, quand l'objectif du facilitateur correspond à l'intérêt des participants. Si on a un décalage, les participants vont s'ennuyer et ne vont pas être complètement acteurs pendant l'atelier.
L'objectif du facilitateur, est-ce que c'est celui du commanditaire finalement ?
Et en plus, il y a l'objectif de l'organisation. Donc, il faut que les trois objectifs soient alignés, tout à fait.
D'accord. Super intéressant. Si maintenant j'entends ça, je me dis, ouais, ça a l'air intéressant. Et en plus, j'ai vraiment l'impression que, alors j'ai dit l'outil de la plateforme, que WAP peut m'aider. Alors, on va inviter les gens à aller sur votre site web. Est-ce que tu peux donner l'adresse ?
Oui, wearpeers.com.
Wearpeers.com. Est-ce qu'on peut tester un atelier ? Comment ça se passe en termes de budget, mais surtout de comment est-ce que je peux goûter à ça chez vous ? Est-ce que vous avez une modalité pour y goûter ?
Oui, on organise à peu près une fois par mois des ateliers d'apprentissage ouverts, en ligne, en général sur les thématiques du moment. Donc, le prochain est lundi prochain qui arrive, le 13 février, mais on ne sera pas du tout dans les temps.
Désolée. Il y en aura sûrement à ce moment-là, lundi, pas prochain, mais presque.
Voilà, exactement. Sur notre site internet, vous avez les dates des prochains ateliers qui sont ouverts. L'avantage, c'est que vous vivez la méthode en tant que participant. Et en plus, vous allez découvrir des bonnes pratiques sur un sujet qui vous intéresse.
Génial. Ah bah ça m'intéresse bien de tester ça. Génial. Donc, si je suis intéressée, je vais sur le site We Are Peers. Est-ce que je peux te contacter aussi ? Est-ce que, justement, sur ce sujet, peut-être entre facilitateurs ou des gens qui sont plus, déjà dans l'intelligence collective et que c'est un sujet qu'ils souhaitent creuser avec toi, est-ce qu'ils peuvent te contacter ? Et si oui, comment font-ils ?
Bien sûr, sur notre site internet ou même le mieux, peut-être sur LinkedIn, en me contactant directement.
Génial. Bah écoute, super, c'était vraiment intéressant. Je te remercie et je vais te poser les trois questions de fin de podcast si tu es OK avec ça. La première, c'est une ressource. J'aime bien savoir, aussi, pour me nourrir moi et nourrir les auditeurs, une ressource que tu aimes partager, un livre ou autre chose.
Alors, la ressource à laquelle je pense en ce moment, parce que j'ai lu un premier brouillon ce matin, il se trouve que la fondatrice de We Are Peers est en train d'écrire un livre sur l'apprentissage entre pairs et elle a envoyé à l'équipe son premier jet ce matin. Donc là, c'est tout frais dans ma tête. Le livre, pour l'instant, il s'appelle « Le livre de l'apprentissage entre pairs ». Peut-être que le titre va changer en cours de route. Je le conseille vraiment parce que cela permet de découvrir ce que c'est que la pédagogie, de savoir dans quel cas on peut l'utiliser et dans quel cas il ne faut pas l'utiliser, avec des anecdotes réelles de clients.
Ce serait sympa de... C'est Diane, son nom de famille, tu peux nous le redonner et nous l'épeler.
Diane.
On peut peut-être la chercher justement parce que ça a l'air vraiment intéressant ce livre. Elle m'en a parlé rapidement.
Diane Len, Len qui s'écrit L-E-2-N-E.
Ok, super, Diane Len. Et on a hâte de voir ce livre. Il devrait sortir quand ?
Il devrait sortir sûrement.
Donc, rapidement. Est-ce que tu peux nous partager une valeur qui te porte, une idée forte qui te porte et qui te motive à te lever le matin ?
La semaine dernière, j'ai animé un WAP avec des entrepreneurs, des ingénieurs pédagogiques. On avait vraiment plusieurs profils qui étaient rassemblés autour de la thématique « Comment apprendre en communauté ?». Et un des participants a raconté son expérience qu'il a fait sa première partie de carrière à l'armée et qu'au sein de l'armée, en discutant avec des formateurs, il a eu envie de changer de carrière, de se reconvertir et de devenir formateur. Donc, il est aujourd'hui ingénieur pédagogique. Et le groupe lui a trouvé un titre à son expérience. Et j'ai trouvé le titre génial, avec un jeu de mots, avec deux jeux de mots. « Rien ne se perd, tout me transforme. » Et donc, en valeur, je trouve que ça permet de se dire que, avec des pairs, on peut avoir un déclic et se dire finalement « ma voix, ça va être une nouvelle voie et donc ça va me transformer, je vais me reconvertir. » Donc je dirais, rien ne se perd, tout me transforme.
Très joli, super. Est-ce que tu peux nous donner ta définition de l'intelligence collective, une des définitions ?
Alors, une des définitions, pour moi, l'intelligence collective, c'est partir du principe qu'on va aller plus loin à plusieurs parce qu'on va rassembler les expériences des uns et des autres et que ça va nous donner un panel de solutions et d'idées beaucoup plus larges que si on avait réfléchi tout seul à une thématique.
Et donc, ça fait écho à « rien ne se perd, tout me transforme ».
C'est ça.
Bah, merci beaucoup pour ce temps, pour ce partage. C'était super intéressant. J'espère que ça aura plu aux auditeurs. Moi, j'ai passé un super moment.
Moi aussi, merci beaucoup, Sophie.
Et puis, on a hâte de vous suivre et de lire ce livre aussi de la fondatrice Diane. À bientôt.
Merci beaucoup, Sophie. À bientôt.